Bienvenue pour cette seconde journée du banquet de printemps 2016 sur le Liban. Cette table ronde tourne autour d'une seule question, celle qui est formulée dans le programme, à laquelle chacun va tenter de répondre de sa place. C'est la question donc du rapport entre deux mondes et deux rives de la Méditerranée, le monde oriental et le monde occidental, qu'on peut décliner schématiquement et de façon réductrice selon un autre couple d'opposition, qui est le rapport entre, disons, la culture de la communauté, la culture traditionnelle de la communauté et la culture de l'individu. Voilà, donc la question, c'est que chacun puisse répondre de sa place existentielle. Beaucoup des auteurs présents, au fond, pour le dire d'une formule un petit peu simpliste, sont à cheval dans leur vie sur les deux cultures. Donc c'est intéressant de voir ce que ça veut dire, et de sa place aussi dans l'écriture, en tant qu'écrivain, ou dans la création cinématographique, pour ce qui est de Maher. Voilà. Mais autrement, parmi les personnes présentes là autour de la table, et donc il y a André Viola, dont nous saluons la présence et dont nous le remercions pour sa participation à ce banquet, ce soutien. Donc André Viola, qui est à côté de Diane, voilà, qui est présidente du conseil départemental de l'Aude et qui impulse aussi toute la politique de coopération et de lien étroit entre l'Aude et le Liban que Valérie Dumontet a développé hier. Voilà. Donc on peut commencer peut-être par aborder la question générale que j'évoquais avec André Viola, voilà, qui est de votre place, donc une place institutionnelle, politique, président d'une collectivité rurale, urbaine. Comment vous voyez, comment vous éprouvez, vous êtes allé aussi au Liban, comment vous éprouvez donc cette question de rapport entre ces deux mondes? Est-ce qu'on est, pour reprendre la formule tout à l'heure provocatrice de Jabour, dans le choc des civilisations, comme certains disent, ou est-ce qu'au contraire, il y a une dynamique qui permet aujourd'hui, notamment par rapport au Liban, d'envisager plus dialectiquement les choses tout à fait autrement, quoi.
Bien, d'abord, merci de votre invitation, et c'est avec grand plaisir que je participe à ce banquet, et tout particulièrement à cette table ronde sur ce sujet précis. Alors qui sous-entend, y a-t-il opposition ou au contraire y a-t-il des proximités, des rapprochements possibles, loin de ce choc des civilisations que vous évoquiez? Alors Valérie Dumontet, hier, vous a parlé effectivement de ces coopérations que nous avons engagées, le département de l'Aude, avec le Liban, notamment Zartaïden, mais pas seulement, puisque nous avons aussi des coopérations en Tunisie, avec la ville de Sousse, également avec le Maroc, avec la province de Guelmim. Alors pourquoi toutes ces coopérations, et ça répond très directement à votre interrogation. Lorsque je suis arrivé à la présidence du département en 2011, j'ai souhaité développer des coopérations décentralisées, ouvrir le département à l'international. Et la priorité, parce que quand on lance des coopérations comme cela, elles peuvent être très 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 diverses, très variées. Et c'est vrai que ces derniers temps, l'État français pousse plutôt à avoir des coopérations autour du développement économique. Moi, j'ai souhaité centrer l'essentiel de nos coopérations sur le pourtour méditerranéen. Et c'est vrai qu'en 2011, je présidais une association qui s'appelle l'Arc Latem, mais qui regroupe uniquement des collectivité, l'équivalent des départements de l'Aude, avec les députations espagnoles, les provinces italiennes. Et c'était une association, l'Arc Latin, où ces collectivités discutent de leurs problématiques, mais uniquement, j'ai envie de dire, rive nord. Et j'ai souhaité, puisque la présidence était tournante, et lorsque je suis arrivé président du département, c'était autour de la France de présider cette association, j'ai souhaité qu'elle s'ouvre sur l'autre rive de la Méditerranée, et qu'on sorte de nos problèmes européens, de relations de collectivité à État, et d'avoir des contacts avec l'autre rive pour échanger, pour s'ouvrir. Et alors, ça m'a permis d'avoir des échanges et d'aller au Liban. Alors, culture commune, vous disiez communautarisme, individualisme. En tout cas, je me souviens bien quand je suis allé au Liban. Bon, j'ai fait un peu de sciences humaines dans ma vie universitaire. On nous dit bien qu'il faut faire abstraction de tout ce qu'on a pu apprendre, de nos expériences, pour essayer d'avoir un regard neuf. Et quand je suis allé au Liban, Toufik Mouad, qui était le président de la municipalité à l'époque, décédé aujourd'hui, m'a expliqué un petit peu le Liban, ses institutions, les chrétiens maronites qui avaient la présidence de la République, puis ensuite le partage entre les chiites, les sunnites au niveau de la présidence de l'Assemblée, du Premier ministre. Donc, même si j'essayais de faire abstraction, avec mon regard un peu laïque sur tout ça, j'avais un petit peu de mal. Et au bout de quelques jours, il m'a dit, bon, alors, avec tout ce que je t'ai expliqué, est-ce que tu as bien compris comment les choses fonctionnaient chez nous ? Et alors là, quand vous avez un ami qui vous pose une question comme ça, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je dis ? Je lui fais plaisir ou je dis vraiment ce qu'il en est ? Et j'ai dit ce qu'il en était. Je lui dis, ben, je t'avoue que j'ai pas tout compris. Et là, il a rigolé et il m'a dit, c'est alors que j'ai été très bien expliqué ce qu'était le Liban. Alors, je ne sais pas s'il faut forcément se comprendre et s'il faut avoir exactement les mêmes visions du monde, au contraire. Ça c'est pas le plus important, mais il faut échanger. Je vois que au travers, et j'en terminerai par là, de nos coopérations, même si on a des approches différentes sur tous ces sujets, il y a des problématiques communes. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la Tunisie, de Sousse. Nous étions en collaboration avec eux, nous sommes en collaboration avec eux. Ils ont été victimes des attentats après les attentats du Bardo à Tunis, puis ensuite, ça a été, enfin, juste avant à Paris, puis avec Charlie Hebdo, puis c'est revenu à Paris. Donc si ces pays-là, comme la Tunisie, sont touchés par le terrorisme également, comme on a pu l'être, c'est que quelque part, il y a des choses communes entre nous qui sont visées. Voilà, il y a quelque chose que nous avons en commun qui est visé. Et je finis vraiment par là. En l'occurrence, là, c'est peut-être parce que ce pays, la Tunisie, s'ouvre, a toujours été ouvert, mais commence à mettre en place la démocratie à l'échelon local, à l'échelon national, et que certains ne voulaient pas que cette expérience se développe. Et c'est pour ça que nous avons développé des coopérations dans l'Aude. Parce que je crois qu'avec cet échange, on peut s'apporter les uns les autres. Il doit y avoir cette ouverture. Et en discutant, on s'aperçoit, surtout quand on a une approche très, très locale, de la problématique auquel sont confrontés nos concitoyens, que ce soit une collectivité de rive sud ou de rive nord, les problèmes sont les mêmes. Les approches sont peut-être différentes, mais parfois on arrive aussi à avoir les mêmes solutions. Et Valérie a dû vous parler hier de tout le travail qu'on a mené autour de la jeunesse, par exemple, et de cette volonté à Sousse de mettre en place une démocratie participative autour des jeunes, comme nous avons la volonté de la mettre en place, nous, dans le département de l'Aude. Alors, vraiment, je finis. On est peut-être plus exigeant quand on regarde ce qu'on appelle le printemps arabe. Certains en France disent, mais vous voyez bien, ça ne marche pas. Ils n'y arrivent pas. C'est donc que la démocratie, ça ne marche pas avec l'Orient. C'est antinomique. Ils oublient ce qui avance ça, c'est qu'en France, quand même, quand on a renversé la monarchie, il a fallu un siècle avant que les choses se stabilisent. Et que la Troisième République, elle a été votée à une voix près, sur un amendement. D'un peu plus, c'était la Restauration. Et que donc, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Et je crois que les États, eux, ont des problèmes, des relations diplomatiques, donc ont d'autres problèmes. Et je crois que par ces échanges que nous avons là, que vous développez, par les échanges que peuvent avoir concrètement des collectivités sur des dossiers très précis, eh bien, on peut tisser ces liens, un peu comme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des jumelages se sont développés entre des communes allemandes et françaises. Ça a participé, moi j'en suis convaincu, de la création derrière de l'Union européenne. Eh bien, moi je voudrais que nos collectivités aient des relations, coopèrent pour que derrière se crée un espace de solidarité et de paix entre les deux rives de la Méditerranée.
Merci beaucoup, André Viola. Ça ouvre des perspectives sur du long terme. Vous pouvez librement ensuite rebondir sur les propos de nos amis écrivains et cinéastes. Voilà. Donc, je vais suivre l'ordre topographique en donnant la parole tout d'abord à Diane Masloum, qui est à côté de moi. Diane, en rappelant que... votre parcours, précisément, traduit peut-être cette perspective d'entremêlage, de tressage qui produit un dépassement des catégorisations anthropologiques ou culturelles ou politiques que j'ai posées trop facilement au départ, hein, dans la mesure où vous êtes né à Paris. Vous avez fait des études en France, oui. Y compris des études universitaires en France. Puis après, vous êtes allé à Rome faire des études. Vous êtes revenu à Paris. Et puis après, vous avez décidé d'aller au pays d'origine, à Beyrouth, où vous avez entrepris toutes études. D'ailleurs, hein, pour schématiser, vous étiez dans des études scientifiques en Occident, en Europe. Et à Beyrouth, ce sont des études de sciences humaines.
Oui, plutôt artistiques.
Artistiques, voilà. Et donc, comment vous, à la fois, ressentez à travers votre parcours et aussi dans votre écriture, on ne va pas parler maintenant, comme je le disais, des romans ou des livres dans le détail, mais ce qui frappe dans votre livre « Beyrouth la nuit », c'est qu'au fond, ce sont des personnages qui sont au-delà des catégories Orient-Occident, quoi. Voilà.
Alors, bonjour. En effet, donc rapidement la petite bio. Donc oui, je suis née à Paris et j'ai grandi à Rome. J'ai fait toute ma scolarité dans une école française à Rome, une école de catholique. Et ensuite, quand j'ai terminé l'école, j'ai été à Paris étudier des maths et de la physique. À l'époque, je voulais faire de l'astrophysique, mais j'ai arrêté après ma licence en physique. Et là, c'était un grand changement de vie. J'ai décidé, pour la première fois, d'aller découvrir le Liban, qui est donc justement mon pays. Et au Liban, je me suis inscrite dans des études d'art et de design à l'université américaine. Donc, je suis passée au système américain. Et depuis, je suis restée jusqu'à il y a un an et demi, où je suis à Paris. Ça fait un an et demi. Donc... voilà, alors en ce qui concerne le choc des cultures, ou plutôt la différence culture occidentale-orientale, c'est quelque chose que je n'ai jamais vraiment ressenti étant à Rome, jusqu'à ce que j'aille au Liban pour la première fois toute petite pendant les vacances. Parce que même s'il y avait la guerre au Liban, mes parents nous emmenaient, à ma sœur et moi, en vacances pour voir la famille l'été pendant les périodes d'accalmie ou peut-être même pas des fois. Donc j'ai pu aussi ressentir un peu la guerre de près, mais enfin de pas de près vraiment de près, mais disons de voir l'ambiance, les bombardements ou les tensions, le manque d'eau, d'électricité, et puis toute l'atmosphère qui s'était créée au Liban pendant la guerre. Et là, c'est vrai que de passer de Rome à une ville comme Beyrouth, qui était le chaos total, étant toute petite, c'était assez, en fait, pas vraiment choquant. C'était, disons, exotique. Et je savais très bien que j'étais libanaise, même si j'ai aussi la nationalité française. C'est quelque chose que je vivais. En fait, ce qui me dérangeait dans toute cette histoire, c'est que le Liban soit en guerre, c'est tout. Sinon, je n'avais aucun problème à être à la fois, disons, française de nationalité, vivant à Rome, étudiant en français et libanaise. Mais le fait que le Liban soit en guerre me posait un problème, je ne sais pas, c'est enfin, bizarre à dire, mais déjà éthique étant petite. Mais le plus grand choc est arrivé quand, de Beyrouth, on m'a emmenée pour la première fois au village, du côté de ma mère, on est originaire d'un village dans le sud-est du Liban qui est vraiment équidistant entre la Syrie et l'Israël, qui s'appelle Rachaïa, qui est au pied du mont Hermon et qui est dans une zone assez désertique. Et là, c'est vrai que c'était vraiment tout un décor de montagnes bibliques, assez désertiques, arides. Un vrai village, je n'avais jamais été de ma vie dans un vrai, vrai village de, comme ça, avec des maisons en pierre, des toits, une vraie vie de village, le cimetière, l'église. Et là, à me balancer sur la terrasse, entourée de ces montagnes arrondies et très solennelles et stables, qui ne bougent pas du tout, vraiment une lumière sublime, là je me dis, mais comment est-ce que c'est possible que je passe de Rome à Beyrouth, à Rachaïa. Là, c'était vraiment. Et je me disais, mais est-ce que c'est possible que des gens ne soient jamais sortis de ce village ? Bien sûr, des gens ne sont jamais sortis de ce village, alors que moi, je suis là de passage, et j'étais en vacances à Beyrouth, mais de Beyrouth, je vis à Rome. Donc là, c'était assez. Assez bizarre. Je me posais la question, comment est-ce possible ? Puis évidemment, petit à petit, tout ça s'est apprivoisé. Et très, très vite, j'ai ressenti quelque chose d'assez patriotique pour le Liban. Je me souviens très bien qu'une fois à Rome, à l'école, ils faisaient un recensement de nationalité et ils voulaient juste compter combien de Français il y avait, et combien d'Italiens et combien d'autres nationalités. Et ils ont demandé aux élèves, là aussi je devais avoir 8 ans, de si on était Français, d'aller se mettre à droite, et italien à gauche, et étranger de ne pas bouger. Et je me suis vraiment dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que bon, j'ai la nationalité française, ils voulaient compter combien de Français il y a. Et c'était vraiment, j'ai réfléchi pendant 5 minutes, et tous les élèves partaient aller se positionner là où il fallait. À la fin, je n'ai pas bougé, je suis restée là, disons que mon côté libanais a pris le dessus, je n'ai pas été me mettre avec les Français, si bien qu'à la fin, c'est des maîtresses ou un directeur qui est venu qui m'a dit « Tu as la nationalité française, si tu vas, tu te mets avec les Français. » Bon, ok. Donc, ils voulaient juste faire ce petit comptage, c'est tout. Mais donc, moi, instinctivement, je suis quand même restée du côté des étrangers pour le Liban. Et pour revenir aussi à d'autres choses par rapport à toutes ces différences culturelles. Bon, moi, ma langue maternelle, c'est le français, mais ce n'est pas la langue maternelle de mes parents. La langue maternelle de mes parents, c'est le libanais, l'arabe. Et donc, moi, j'ai appris le libanais en les entendant parler entre eux, mais par exemple, je n'écris pas et je ne lis pas l'arabe. Bon, déjà, ça aussi, c'est bizarre quand on vit au Liban, ça devient un peu bizarre parce que plusieurs fois, je ne peux pas lire des panneaux routiers ou J'ai parfois même du mal à m'exprimer, même si je comprends tout du libanais et et je parle un peu, je me débrouille en libanais. Bon, c'est vrai que oui, c'est toujours bizarre de se retrouver dans son pays et de ne pas pouvoir bien communiquer, surtout qu'il y a une différence entre le libanais et l'arabe littéraire, qui est la langue officielle et la langue administrative dans le pays, les journaux, la télévision, la radio. Et bon, par rapport aussi à la religion, moi je savais que j'étais chrétienne, mais ce n'est que en arrivant au Liban qu'en fait j'ai compris que même chez les chrétiens il y avait plusieurs différentes communautés, et c'est là que j'ai appris que j'étais grecque catholique, ce qui pour moi ne rimait absolument à rien du tout, et mais qui était apparemment très important pour ma famille, que je sois grecque catholique, et que ça rentre dans ma tête que je suis grecque catholique et pas que chrétienne. Bon. Voilà, donc ça c'est en ce qui concerne toutes les... Alors après, c'est vrai, je vais un peu au-delà de toutes ces différences. Pour moi, oui, c'est très bizarre les différences culturelles ou toutes ces différences, l'Orient, l'Occident, le... Moi, je pense que j'ai amalgamé un peu tout ça, même si c'est quand même aussi source de clivages internes et de petits conflits personnels, souvent. Surtout, vivant au Liban ces 10 dernières années, ça va, même si bon, je me sentais parfois... Enfin, plutôt, on ne me percevait pas comme la typique libanaise. Bon, à la limite, ça m'est égal. Mais c'est vrai que maintenant que je suis à Paris... Et c'est mon côté libanais qui vraiment a pris le dessus. Et beaucoup de choses me manquent. Par exemple, la chaleur humaine, le fait visuellement, le chaos me manque. Moi, à Paris, mon regard n'est pas du tout stimulé. Je dirais même, pardon, hein, je n'aimerais vexer personne. Mais j'ai un manque de stimulation visuelle. Et même, disons, un peu... personnel. À Beyrouth, quand je sors de chez moi, je sais que quelque chose va toujours se passer dans la rue, je vais être surprise, quelque chose va me toucher. Il y a toujours les intérieurs des maisons qui débordent vers l'extérieur. C'est toujours ouvert, c'est convivial, c'est chaleureux. C'est quelque chose qui me manque énormément à Paris, à part bon, le temps, le gris, mais c'est le fait de me dire que bon, voilà, je vais sortir. Peut-être moi, je vais pouvoir un peu provoquer dans la rue où j'habite. Maintenant, je connais tous les vendeurs et je suis devenue un peu amie. Mais bon, c'est moi qui ai provoqué tout ça. Et je dois dire que ce n'est pas aussi sympathique qu'à Beyrouth. Mais bon, au moins, j'essaye. Mais oui, c'est vrai que... voilà, pour moi, c'est vraiment un peu cette... un peu monotonie visuelle et cet individualisme qui me dérange un peu beaucoup. Mais bon, après, pour je suis à Paris pour d'autres raisons qui d'autre part peuvent qui me comblent pour d'autres façons, mais voilà, là aussi c'est un peu difficile parce que être à cheval entre deux cultures fait qu'on est tapissé par beaucoup plus de récepteurs, et tous ces récepteurs ont envie d'être nourris, chacun, tout le temps, et ça c'est difficile de les nourrir, qu'ils soient constamment nourris. Une partie de ces récepteurs est nourrie quand je suis au Liban, une autre partie est nourrie quand je suis en Europe, mais en même temps, ça c'est difficile. Donc c'est ça les petits conflits internes au quotidien ou hebdomadaires, mais bon. C'est pas non plus, ça me demande pas une analyse ou quoi que ce soit.
Merci beaucoup, Diane. Donc, pareillement, vous pourrez réagir éventuellement après aux propos des uns et des autres. Donc, Iman Humedan, c'est un autre parcours, mais aussi un parcours d'hybridation, de mélange. Donc vous êtes né au Liban, par contre, vous êtes arabophone, mais en même temps, vous avez été nourri de la culture anglophone, et donc vous êtes anglophone, même si vous écrivez par contre en langue arabe ou en libanais ?
en langue arabe. Dans le dialogue, on utilise le libanais, mais on écrit en langue arabe.
Voilà, et vous faites aussi des allers-retours depuis un moment entre Beyrouth et Paris. Mm-hmm. Donc votre parcours est aussi un parcours de tressage de linguistique, culturel, sociétal. Et donc comment vous voyez de votre place à la fois en tant que personne et en tant qu'écrivain ce tressage au fond?
Bonjour. Comme vous avez dit, je suis anglophone. Et j'ai commencé mes études dans une école anglaise. La directrice était anglaise. Et puis, à l'université, je suis allée à l'université américaine. Mais quand j'étais toute petite, même avant d'aller à l'école, c'est ma mère qui m'a appris comment écrire et elle m'a appris d'écrire en français. Mais j'ai tout oublié après, quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'ai oublié la langue française. Et j'avais une mère qui était très silencieuse. D'ailleurs, dans mes romans, toujours la mère est silencieuse. Parce que j'ai écrit un peu, je mets ma vie dans mes écritures. Et mon père était anglophone, donc on est allé dans une école anglophone. Et le thème Occident-Orient, je n'ai jamais pensé de la différence entre les deux, sauf quand je suis devenue très adulte. On a écouté les chansons de Beatles, de toutes les chansons anglaises et américaines. On a toujours pensé que ce sont nos chansons. C'est nous qui avons écrit ces chansons, parce que c'était une réflexion de notre génération, de notre jeunesse, de notre enfance. Mais quelque chose m'est arrivé dès que la guerre a commencé au Liban. Dans ce moment, le terme Occident-Orient a pris un sens politique. Et dans ce temps, j'ai commencé à poser des questions à moi-même. Je suis qui? Est-ce que je suis arabe, point à la ligne, ou bien je suis un mélange de tout? Et ça m'a pris beaucoup d'années pour confronter cette question, et à travers l'écriture, je m'ai trouvée, j'ai trouvé mon identité. Et maintenant, si quelqu'un veut me poser la question, tu es qui? Je dis, je suis une femme. Ça, c'est peut-être la seule chose que je suis sûre, que je n'hésite pas à répondre. Je suis une femme et je suis la fille de cette terre. Et je suis entre, peut-être, dans un lieu entre les deux. Occident et Orient. Aussi, j'avais une expérience à l'université américaine avec des profs américaines et j'ai appris beaucoup de choses de eux, mais aussi je sentais, comme Diane a dit, je sentais que nous sommes beaucoup plus chaleureuses et on rit plus, peut-être on exprime notre amour pour la vie beaucoup plus coloré. Et quand je commençais à... Je suis mariée avec un homme libanais qui a fait ses études en France. Et bien sûr, elle était francophone. Et comme ça, je devais de temps en temps venir avec lui en France. Mon premier enfant était né en France. Et j'étais... enchantée, on dit, bewildered, de voir l'autre côté du monde pour moi, parce que j'ai voyagé pour la première fois dans ma vie en Occident quand j'avais 20 ans. Et j'ai essayé de de faire ce comparaison entre mon pays où j'habitais quand je suis venue en France. C'était les années 80-1981. Et 1982, le temps quand on a décidé de retourner, la guerre a commencé entre l'Israël et le Liban. L'Israël a entré même à Beyrouth et j'étais obligée de rester en France encore 5 mois. Peut-être c'était la première fois que vraiment je réalisais que ma ville, c'est tout à fait différente que Paris. Là-bas, il y a la violence, il y a la guerre. On n'a pas trouvé un moyen de résolution, de résoudre notre problème sans violence. La même chose que je sentais pendant toute la guerre au Liban. Et la violence est devenue un thème très vital, très principal dans mes écritures. Pourquoi à Londres, quand je voyage à Londres, je ne vois pas des immeubles détruits? Il y a des questions que je pose toujours quand j'écris et je ne trouve pas une réponse. Même pas dans des livres de sociologie ou bien des livres de sciences politiques. On ne trouve pas pourquoi il y a la violence dans mon pays, il n'y a pas dans d'autres pays. Et pourquoi la femme est supprimée, pourquoi pas supprimée, opprimée, pourquoi on ne peut pas arriver dans un niveau où on peut changer les lois. Ce sont les questions que toujours dans ma tête, quand je fais ce voyage entre les deux mondes. Et je me sens toujours, je suis au milieu. Je crois que... Merci.
Iman, juste une question complémentaire. Est-ce que la réponse, elle n'est pas dans l'écriture et dans le rapport aux langues au pluriel? Quand même, je voudrais signaler qu'avant la table ronde, vous disiez que vous alliez sans doute parler une partie en anglais et que quelqu'un traduirait. Et en fait, vous n'avez fait que parler le français, quoi.
Non, je disais que si un mot que je ne trouve pas en français, je vais l'écrire là.
Oui.
Mais ça va.
Et ça n'a pas été le cas, quoi.
Bravo.
Okay. Merci. Alors, Randa Sadaka, vous avez un parcours qui est un petit peu similaire à celui de Diane Mazloum, au sens où vous êtes née en France, vous avez fait vos études alors de droit à l'université en France, et vous décidez de retourner, enfin, c'est pas retourner, de vous installer dans votre pays d'origine, qui est donc le Liban, et à Beyrouth, pour développer votre vie et vos activités professionnelles. Et vous êtes très engagé donc dans la promotion et la diffusion de la culture artistique, littéraire au Liban, notamment à travers une revue dont on parlera cet après-midi et que vous distribuerez. Alors, comment vous voyez donc de votre place la question évoqué.
Donc, bonjour à tous. Complémentaire. Voilà. Donc, je suis une binationale décomplexée. J'assume. Et mon idée, mon leitmotiv, c'est de dire la France, c'est mon pays de cœur. Et le Liban, c'est mon pays de sang. Du coup, hop, je fais ma valise, je rentre et je mets les compétences de mon pays de cœur au service de mon pays de sang. Et je crois qu'on en a vraiment besoin aujourd'hui. Et heureusement, on est beaucoup, beaucoup de jeunes à faire ça, à être dans cette démarche constructive au Liban aujourd'hui. Du coup, moi, j'aime bien cette phrase d'Amin Maalouf qui dit que l'identité, c'est une somme d'appartenance toute importante, plus ou moins, et toute signifiante. Et c'est ce qui forme l'individu, en fait. Et donc dans le thème de cette table ronde, rappelons quand même que l'Occident, l'Orient, à l'origine, c'est deux points cardinaux. Donc voilà. Et c'est des mots peut-être un peu imprécis. Il arrive qu'on classe des choses, qu'on dévalorise une région du monde avec ces mots et des conséquences qui ne sont pas justement anodines. Mais vraiment, pour moi, la complémentarité entre l'Orient et l'Occident est réelle. On la ressent sur le terrain, notamment au niveau de plein de choses, notamment au niveau de la francophonie qui est très active au Liban et concrète et en développement, heureusement. Du coup, je voulais aussi rappeler ce que j'ai toujours ressenti, moi, quand j'ai vécu à Paris toute ma vie. En fait, je suis née au Liban, j'ai quitté, j'avais 2 ans, et je me suis installée toute ma vie à Paris, j'ai fait toute ma scolarité, et ça fait la 4e année où je suis de retour au Liban. Et j'ai toujours senti, en fait, une part, comme disaient mes collègues, mes consoeurs, d'exotisme, de mystère, de charme. Quand je disais que je venais du Liban, bon, en plus, je ne suis pas très... Matt, j'ai un look plutôt français, donc dans la cour de récréation, on savait que j'étais libanaise parce que je faisais ma petite tartine de pain libanais, on m'identifiait comme ça. Ah, mais le Liban, c'est le charme, c'est l'exotisme, c'est le mystère, c'est compliqué. Et c'est vrai, c'est tellement compliqué. Je crois que même au bout de 4 ans, j'ai pas encore tout compris. Et c'est partie du mystère, du charme aussi. Donc voilà. Donc il y a toujours eu un engouement, une fascination, et à certains moments de notre histoire, une frayeur. Qui existe, qui fait partie de notre vie. Je crois qu'aujourd'hui en France, malheureusement, vous ressentez aujourd'hui aussi la même chose. Donc en venant, je consultais mes mails et j'avais vu qu'on a désamorcé une bombe à 5 km de chez moi, donc à Sanaïl ce matin, qui était prête à exploser dans la plaine de la Beka. Donc c'est aussi ça, on vit sur un volcan. C'est ce que d'ailleurs dit Marc Sayali, le directeur de France 24. On danse sur un volcan à Beyrouth tout le temps, la vie est très intense et il y a une sorte d'énergie électrisante qui est profondément inspirante à Beyrouth. Je dis à Beyrouth parce que je vis à Beyrouth. La vie culturelle est centralisée à Beyrouth, du moins, je pense, du mois d'octobre à mai, puisque en juin, en été, on a des festivals un peu dans toutes les régions du Liban, donc qui font vivre les régions au niveau touristique, culturel, c'est très important. Mais le reste de l'année, voilà, la scène théâtrale, de danse contemporaine, les saisons musicales de Beyrouth, sont à Beyrouth, en fait, tout est centralisé. Donc c'est une ville vraiment multiple et envoûtante. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je voulais aussi partager avec vous une petite réflexion, si vous me permettez. Donc le thème aussi, c'est l'individu dans nos sociétés. Et c'est un sujet de réflexion sur lequel beaucoup d'artistes, en fait, voilà, s'arrêtent. Et je ne sais pas si on a vraiment trouvé la réponse. Et je voulais juste rappeler, moi, comme ça, qu'en Europe, on a tous grandi, je crois, ceux qui ont grandi, les Libanais en France. Nos parents nous disent, bon, voilà, vous êtes français, etc., vous avez des copains français, vous vivez à la française, mais on va vous éduquer à la libanaise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est un petit peu déjà schizophrène, et je pense que la société libanaise l'est profondément. Du coup, donc, on grandit dans une société occidentale qui fonde un peu ses principes sur l'individualisme, ce qui est bien aussi. Et c'est une conception structurante dans laquelle on se construit, voilà, avec une liberté individuelle, protégée par les institutions, très importantes, qu'on n'a pas au Liban. Et du coup, dans cette vision occidentale, dans laquelle je me retrouve fortement, les institutions religieuses sont séparées des institutions politiques, ce qui n'est évidemment pas le cas chez nous. Et donc, on a un principe de laïcité qui est très fort et qui est un peu inexistant au Liban. Donc, au Liban, donc, dès qu'on met le pied, évidemment, à Beyrouth, on est renvoyé systématiquement à cette image d'appartenance communautaire, religieuse. C'est lourd, hein, il faut pouvoir prendre une distance. Donc, c'est, ça, c'est l'idée. Donc, moi, je voulais rappeler que les Orientaux sont fidèles, évidemment, à ce qu'on vient de dire, les racines historiques, qui sont imbibés de sentiments religieux. Mais en fait, c'est intéressant de remarquer qu'ils ont souvent été contraints de se soumettre à l'obédience politique du dictateur, donc ça c'est l'histoire, aux partis politiques. Non, surtout qu'on a des élections municipales la semaine prochaine, donc on est en plein dans le bain au Liban, aux groupes religieux. Donc, il y a la communauté culturelle, ça c'est très important, et c'est une façon pour le Libanais aujourd'hui de trouver une dignité personnelle. C'est comme ça qu'il se situe, comme ça qu'il se définit. Donc, en fait, l'individu, finalement, au Liban aujourd'hui, il trouve sa place en se référant à une sphère déterminée, à un cadre bien défini, à différents niveaux. Donc, il est plutôt en recherche de son critère absolu de vie d'existence dans ce cadre-là. Et bon, peut-être ce qui a poussé probablement les jeunes à s'insurger dans le monde arabe, c'est pas le cas au Liban, parce que c'est une exception aussi, figure d'exception. Mais en tout cas, on sent des germes un petit peu partout pousser. Et moi, j'aime bien penser et défendre l'idée que il y a toujours une perspective optimiste, finalement, qu'on peut utiliser dans sa vie. Donc le détour, moi, je pense au détour par l'Orient aujourd'hui. Est important pour l'Occident, pour se nourrir, pour réfléchir, pour poser des choses. Par exemple, quand on pense à l'écrivain Michaud qui évoque l'Orient pour s'orienter, comme un crochet qui est un peu une promesse, pour réveiller un peu une Europe somnolente, c'est peut-être aussi utile aujourd'hui, cet axe de la Méditerranée, en tout cas j'y crois fort. Il y a un besoin d'Orient qui s'inscrit comme une invitation au voyage, en tout cas, en Europe aujourd'hui, on le ressent aussi. Et en tout cas, l'activation de ce dialogue à travers un regard comparatif, privilégiant le relativisme culturel, c'est ce que je fais dans mon travail tous les jours, ça permet de cesser de juger en termes de hiérarchie son appartenance. Donc je suis français, je devrais faire comme ça, je suis libanais, peut-être prendre le meilleur des deux cultures pour essayer finalement de faire bouger les lignes. On ne peut pas changer le monde, évidemment, mais on apporte au moins ses compétences pour essayer d'être utile. Donc c'est déjà bien. Voilà.
Merci beaucoup, Randa. Oui, il y a un micro là-bas. Donc, Maher Abi Samra, bonjour. Donc, on a vu vos deux films documentaires hier soir, on vous a entendu. Simplement, ce qu'on peut repréciser, c'est que votre parcours aussi vous conduit entre les deux rives, d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Vous êtes né à Beyrouth, vous avez vécu à Beyrouth. Et depuis un moment, donc, du fait de vos études cinématographiques, vous avez fait la FEMIS donc à Paris. Enfin, vous préciserez plus finement les choses. Et actuellement, vous vivez à Paris également. Donc, comment, à travers votre parcours et votre activité d'écriture cinématographique, vous êtes aussi photographe, vous travaillez pour des journaux à la fois libanais, des agences de presse occidentales. Comment vous vivez ce questionnement sur les deux mondes ?
Bonjour. Alors, je vais essayer de raconter quelques petites histoires. C'est difficile pour moi de raconter quelque chose en continuité. J'ai commencé quand j'étais dans le Parti communiste libanais, un peu tôt dans ma vie, jusqu'au le moment que j'ai parti de Liban à la fin de la guerre, 90. J'étais photographe pendant 5 ans dans le journal du Parti communiste, Aneda, et d'autres après. En même temps, j'ai travaillé, parce que 85, si vous vous rappelez, au Liban, c'était l'histoire des otages. Il y avait moins de photographes étrangers, alors les agences, ils avaient besoin de nous. On a commencé à travailler à Reuters, à AFP, où il y avait les salaires, on vend des photos, réellement. Les photos, ça, c'est à peu près le prix d'une la quart de notre salaire dans le journal quotidien libanaise. Et je me rappelle, je raconte une petite histoire, que dans le journal, je faisais des photos de la guerre. Tous les matins, je sortais, je baladais, et après, je donne le pellicule au journal. Et il y a une photo qu'ils ont mis, comme toutes les photos, à l'intérieur du journal. Il y a dans le troisième page 10 photos dans la page. Et j'ai insisté qu'il y a quelques photos qui sont bien, c'est bien qu'ils soient dans la première page. Bref, ça passait comme ça. Le deuxième jour, Reuters, il m'appelle. Il demande si pourquoi j'ai pas passé à Reuters. Il y a une photo qui est très intéressante. Pourquoi j'ai pas passé pour eux qui l'intéressent. Ils ont repris le deuxième jour la même photo qui a été publiée dans le journal, et ils l'ont, comme toutes les agences, ils l'envoient à tous les journaux internationaux et nationaux. Et le deuxième jour, le journal Parti communiste, ils ont pris cette photo, ils ont mis sur la première page. Parce qu'il vient de Reuters, réellement. Je n'ai rien compris, mais bref, ça c'est une petite histoire. Et d'autre chose, qu'on était dans le parti, il y avait cette histoire, surtout qu'il y avait une guerre qui est en train d'aller vers le communautarisme religieux. On était quelque part d'une logique qui était contre la religion, et on parle des laïcités d'une manière comme c'est une religion, quelque part. C'est-à-dire qu'il faut refuser, pour entrer dans les partis communistes, il faut vraiment déshabiller complètement de toute notre culture, de même, n'importe quelle chose qui est liée à notre culture, qui est liée à nos histoires, comme il faut le jeter pour entrer dans les partis communistes, pour être un modèle de quelqu'un de laïque, de athée, non-nation, ça veut dire qui n'est pas lié à une culture précise. Et c'est ça, c'est l'éducation qui restait dans, même si j'étais intégré bien sûr dans cette logique. Quand je suis venu en France, ça m'a, il y a d'autres choses que j'ai appris, que ça m'a intéressé. J'étais avec, après mes études que je n'ai pas fait à la FEMIS, je ne sais pas d'où ça vient cette histoire des FEMIS. J'ai trouvé dans plusieurs CV à moi que je n'ai pas fait. J'ai étudié dans une...
Je pense que c'est un bruit qui a fait courir un responsable de la FEMIS qui habite pas loin d'ici.
Non, je l'ai trouvé. Non, je l'ai trouvé il y a longtemps dans mes présentations. Mais réellement, je n'ai pas fait des études en France dans une université. J'ai fait de formation, une longue formation, que j'ai appris les techniques. Réellement, je n'ai pas appris la réalisation. Et à la fin de formation, je suis allé avec un copain, deux copains à moi, un Français et un Italien. On a fait un film au Liban qui s'appelle Bâtir sur deux vagues. Bâtir sur deux vagues. C'est après 5 ans de la fin de la guerre, comment les milices, il est entré dans le pouvoir, qu'ils ont devenu le pouvoir par l'État. Et j'ai remarqué après le visionnage, parce qu'il y a moi et Jérôme qui est Français, qu'on a utilisé la caméra, ça veut dire qu'on a tourné. J'ai remarqué que toujours mon cadre, il commence par de droite à gauche, et son cadre de gauche à droite. Toutes les images qui sont comme ça. Je trouvais intéressant son cadre. Il a refusé un peu mon cadre, il n'a pas compris pourquoi, mais après Aldo, l'Italien, qui a essayé de trouver des choses aussi intéressantes dans le droite à gauche, et qu'il a convaincu Jérôme qu'il y a le deux qui est possible. Et ce qui est, pour moi, c'est une petite histoire, mais c'est aussi, quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé sur un film, j'ai eu de la chance de travailler sur, découvrir la France à travers un film qui s'appelait 12 France. C'est un documentaire qui parle 10 ans de l'histoire d'immigration en France. Ça veut dire, on a fait tous les banlieues français en France. Que j'ai découvert, les autres Arabes, les autres immigrés africains, qui m'a permis réellement, c'est ça qui est intéressant, ça m'a permis de connaître ma culture à moi, d'une part, et de prendre de l'autre. Et ce que je trouve, ce qui était intéressant aussi, de plus parler de laïcité, de parler de non-communautarisme, ou parler de l'État en dehors de religion. Mais j'ai senti que, comme au Liban, comme ici des fois, par plein de choses que j'ai vécues, que laïcité, ça devient quelque chose de la religion. Ça devient un nouveau religion. C'est l'idée de sortir de communautaire, oui, de communauté, mais ça ne fait pas dire de nier notre moi, je suis d'une culture musulmane, chrétien, de l'Orient. Je suis cette mélange. Et ce n'est pas l'histoire, pour moi, les religions, c'est l'histoire de croyance, ce n'est pas l'histoire seulement de croyance, c'est l'histoire de culture, c'est mélangé. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien au Liban, il ait la culture, pour moi. Un chrétien au Liban, il a la culture musulmane, arabe, chrétienne. de cette région, cette mélange.
Sauf s'il est de Zrata.
Sauf s'il est de Zrata, on ajoute Zrata. C'est le quatrième. Et pour moi, c'est pas, je suis plus, j'étais contre la religion, je suis plus contre la religion. Et ça, ça me permet ça, c'est de vivre ici, en France, de me connaître, de me battre quelque part aussi avec moi-même et avec la société où je vive. Et c'est ça qui, pour moi, c'est les richesses de sortir de notre coquille, des fois, d'aller ailleurs, qui nous permet de se connaître. Peut-être aussi, c'est l'histoire de la guerre, jusqu'à 25 ans que j'ai resté au Liban. Pendant la guerre, je n'ai pas eu la possibilité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont restés au Liban, qui ont appris des choses peut-être beaucoup plus intéressantes que moi. Ça ne fait pas dire seulement le changement, mais c'est l'idée. Moi, je trouve que ce changement, c'est ce qui fait. Et seulement une dernière chose que j'ai vécue, c'est toujours, je faisais un film qui parlait des Libanais, parce que les Libanais, ils ont refusé de dire on est migrés. Nous, on est exilés. Parce que l'image d'immigration, c'est assez, vous connaissez, c'est l'image, comment elle est négative, c'est les voleurs, c'est les. Alors nous, les Libanais, on n'est pas immigrés, on est exilés, on est là parce que. Et c'était l'idée du film, c'est après 5 ans aussi de la fin de la guerre, pourquoi les Libanais, s'ils sont exilés, pourquoi ils ne retournent pas chez eux? Alors, où ils sont émigrés? Et c'est un premier travail. Ce que je veux dire, c'est j'ai trouvé le faire semblant d'être comme les autres, à dire qu'on est assimilé, on est français, on a les mêmes cultures. Et bien sûr, en France, on a cette image du Liban, qui est Liban chrétien, pour la ligne. C'est comme je fais une interview, je me rappelle de le maire de Robinson, il a mis un cèdre, derrière un cèdre, je l'ai filmé, qu'il a planté dans son région, et qu'il dit oui, c'est normal, les Libanais, c'est pas comme les autres, c'est des chrétiens, c'est les mêmes cultures, ils sont pas différents. Et réellement, c'est les Libanais, pour être acceptés dans sa tête, il essaye de. Ça, je parle de. Il essaye de dire que oui, on est la même chose. On est chrétien. Même s'il n'est pas chrétien, il utilise cette idée. Écoutez, moi, je venais de gauche et j'ai utilisé réellement ça, cette histoire de l'image qui était au Liban. Et ça, c'est une image que j'ai quelque part battue avec moi-même pour essayer de me retrouver en dehors de cette image. De trouver ma place comme une personne qui vit dans cet endroit, et je suis un citoyen de ce pays. Bref, j'ai des petites histoires, et merci d'avoir m'écouté.
Merci beaucoup, Maher. Alors, Jabou Odwei, on vous a entendu hier. Oui. Avec votre superbe parole, humour, votre regard très fin sur la réalité libanaise de Tripoli, de Zgharta. Je rappelle simplement donc que vous êtes né, que vous avez vécu au Liban, donc dans ce nord-Liban, que vous êtes arabophone, mais que vous enseignez à l'université de Tripoli la littérature française. Donc par rapport à ce parcours, par rapport à cette entremêlement des langues, comment vous voyez la question?
Bonjour. Je vais procéder peut-être de la même manière que Maher, que je viens de reconnaître comme le frère de mes amis, par quelques flashs comme ça. D'abord, puisqu'on parle ici beaucoup de ma ville, disons, d'été et d'hiver, je vais en remettre une couche. En disant que j'ai passé tous les étés de ma vie à Ehdin, dans la même maison que mon père a hérité de son père, je ne sais plus. Où est-ce que, non, pas la maison nécessairement, mais la propriété. Donc je suis sédentaire, enraciné, bon, oui, enraciné, on peut le dire. Et quand des villages ont été rasés ou les habitants de certains villages, à cause de la guerre civile libanaise, ont été chassés de leur maison, c'était pour moi apocalyptique. Je ne pouvais pas imaginer comment on pouvait s'en aller, quitter tout ça, comme ça, dans le vide. C'était, j'étais encore jeune, bon, mais c'était ça ma conception du lieu, c'est définitif. J'avais des amis, bon, qui ont fait le tour du monde, qui ont des arbres généalogiques très divers, mais moi j'étais là, assis dans le même lieu. Et pourtant, j'ai fait des études comme ci, comme ça, qui m'ont très bien rapproché d'une littérature et d'une culture française, jusqu'au point où un journaliste français qui avait pris rendez-vous avec moi à Tripoli dans un café d'hommes rentre et me voit en train de lire le Nouvel Observateur et donnant mon pied, excusez-moi, à un cireur de chaussures. C'était pour lui, il m'a dit, voilà, tout y est. Inutile de parler plus. Bon, je peux m'expliquer pourquoi je me fais cirer la chaussure par un chouchia qui est là, qui veut vivre, qui veut faire vivre sa famille, qui ne sait faire que ça. Et on le fait, tous les clients du café le font, un peu aussi pour lui. C'était un peu ça. Et puis, une fois à Paris, à un moment, j'étais de passage, il y a eu un attentat à la rue Copernic contre une synagogue ou quelque chose comme ça. Et puis, il a été diffusé un portrait robot. Tiens, il me ressemblait fort. Et je passe au boulevard Saint-Germain et débarque une camionnette d'une association d'étudiants juifs un peu violents, avec des bâtons. Ils cherchaient. J'ai pris la première ruelle à droite et je me suis tiré. Je me suis dit, ils vont me croire que c'était moi. Bon, voilà, c'est comme ça. On est, moi, je suis aussi chrétien, comme on le sait bien. Et ça aide à, comme dit Maher, ça aide à se rapprocher d'autres choses, à sortir, à aller à la rencontre. Plus qu'un musulman enraciné et avec sa culture. Mais si tous ceux qui sont là ont des possibilités de métissage, je me demande si vraiment il y a un pur sang arabe, musulman, moyen-oriental. Je ne crois plus. Je ne crois pas qu'il y en a. Il y a toujours. Ça y est, les idées ont envahi le monde, les techniques ont envahi le monde. On est tous un peu occidentaux. Dans ce sens. Et le Liban en sait beaucoup. Un sénateur français qui a été nommé haut commissaire dans les années 20 a créé un comité de rédaction de la nouvelle constitution libanaise. Et il voulait, lui qui était, j'ai oublié son nom, était amoureux de Colette. Et il avait un problème familial, il devait rentrer en France. Il a demandé à ce que la constitution soit rédigée en 3 mois. Il n'y avait pas plus de temps. Et notre Michel Chiha, qui est politicien et penseur libanais, dit « Vous voulez résoudre toutes nos contradictions et sauvegarder notre liberté d'opinion et d'économie et de commerce ?» et créer une démocratie parlementaire en 3 mois. Ça a été fait en 3 mois, notre constitution libanaise, bourrée de notions qui nous sont venues comme ça, qui ont peut-être aussi fait le tour du monde. La liberté, la responsabilité du ministre, les députés, le vote de confiance, de défiance, la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle, toutes ces... Les institutions existent. Les élections, comme on l'a dit, ont lieu. Maintenant, nous avons des élections municipales. Mais il faut voir comment ça fonctionne. Sur quelle base? Sur les mêmes? Est-ce que c'est la même chose? Non. Et c'est là un des problèmes majeurs culturels que nous confrontons. Nous manions des idées qui sont en décalage avec la réalité. Souvent en décalage avec la réalité. On essaie de les accommoder et ça ne va jamais sans friction. C'est un peu l'histoire du tiers-monde, que le Liban vit encore de manière plus évidente à cause de la pluralité des ascendances, des communautés où il y a de toute cette diversité qui peut se tourner parfois en cacophonie et qui provoque des conflits. Mais les Libanais sont faciles à gérer partout dans le monde. Ils sont adaptables, ils ont été partout, même Lévi-Strauss, on a trouvé un dentiste tropique au dernier confin habitable de l'Amazonie. Il vendait des choses aux tribus qui n'avaient pas encore été, si vous voulez, des objets. Il y en a même qui a été le médecin de Mao Tse-tung, de l'autre côté. Et on est un peu partout. S'il s'agit de Libanais, l'adaptation est vraiment enrichissante, surtout au niveau des destins individuels, comme vous en avez trouvé ici. C'est peut-être la modernisation de la chose publique qui est difficile, qu'en est presque impossible. Mais au niveau des destins individuels, vous trouverez toujours des Libanais qui savent parler plusieurs langues, qui savent tout, qui peuvent vous renseigner sur ce qu'ils vivent et qui s'en portent bien. Il y en a qui partent, comme toujours, sans vouloir revenir. Il y en a qui sont habités par cette idée, comme ces dames, de revenir à Beyrouth, de revenir au Liban. Il y en a qui aiment beaucoup la France et la culture française et qui veulent, comme moi, rester chez eux. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jabou. Il nous reste un tout petit temps. On va en profiter pour donner la parole à qui veut parmi vous, qui voudrait compléter ce qu'il a dit, s'il y a quelque chose rapidement auquel il a pensé après ou auquel elle a pensé après, qu'elle a envie de dire maintenant, ou réagir éventuellement sur le propos de tel ou tel, réagir éventuellement en opposition. Imane.
Je voudrais parler de deux films de Maher hier, parce que j'étais obligée de quitter avant la discussion. Je ne sais pas s'il y avait de discussion. Pendant la projection du film, toujours je pensais à nous, au Liban, et je posais la question, est-ce que c'est nous? Et c'est difficile de se mettre devant un miroir tout le temps. C'est ce qui m'est arrivé hier, surtout avec le film sur le Liban. Le film était très poignant, très vrai. C'est nous. C'est nous avec toute cette ugliness. Leader. En même temps, comme si on a perdu, on n'a plus de miroir. On ne se voit plus. Et ça me fait très mal hier, Maher. C'était très fort. Merci.
Merci, Iman. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre parmi vous veut réagir?
Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit, en effet, Jabour. Je pense que l'élément humain, c'est la richesse du Liban aujourd'hui. Et je trouve que c'est pour ça qu'on brille, en effet, à l'international et qu'on est envahi par un sentiment d'individualisme, malheureusement, quand on rentre au Liban. Voilà.
Jabour.
Quelqu'un a dit ici que nous, les chrétiens du Liban, nous sommes imprégnés de la culture musulmane. Et c'est très vrai. Et ce n'est pas parce qu'on parle du Liban, on parle facilement de la littérature libanaise, et que un bon nombre d'invités sont chrétiens, que ça donne cette impression. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas juste. Il y a, on est dans nos programmes d'école, dans nos lectures, dans toute cette tradition qui remonte, même avant le Coran, la langue arabe est une langue libanaise par excellence. Et les chrétiens, d'ailleurs, eux-mêmes, à un moment donné, sont, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, on trouve des puristes de la langue arabe parmi les maronites, plus que parmi beaucoup de musulmans. Je crois que les choses ne sont pas telles qu'on peut les certains peuvent vouloir qu'elles soient. Non, il y a un continuum culturel. Les chrétiens libanais en sont une petite variation, mais qui n'est jamais en contradiction avec le surtout dans l'écriture arabe.
Imane.
Je crois que c'est moi qui a parlé oui. de ça. Oui, oui. On écrit en arabe classique, quand on écrit un roman. Mais quand il y a un dialogue, moi je trouve c'est mieux de l'écrire en libanais, parce que c'est dialecte. Si deux sœurs en train de parler dans un roman, un dialogue, je préfère d'utiliser le dialecte. Et je vais ajouter quelque chose qui est loin de ce que je dis maintenant, vraiment, Dominique, c'est très important. Le roman libanais est hors des religions et communautés. C'est hors. Grâce à Dieu, c'est hors. Moi, j'ai écrit comme une femme libanaise. C'est tout. Et le premier roman féminin au Liban, c'était écrit par une chiite. C'est Leila Baalbaki. Mais pour moi, c'est une femme. Elle a déclenché quelque chose. Et c'est une icône pour moi. Merci.
Seulement, je veux parler d'une chose qui est, depuis hier, j'ai remarqué et je remarque toujours en France. C'est on définit les Libanais, ou qu'on parle des Liban, comme il y a un frontière. Là, c'est les chrétiens. On dirait vraiment c'est... Il y a quelqu'un qui est venu le mettre, c'est une culture chrétienne, une culture musulmane. Après, c'est nouveau là, ça fait 10 ans. Chiite, sunnite, alaouite, c'est comme des choses qu'il y a une frontière entre l'un et l'autre. En réalité, si on va parler de communauté, on parle de politique. Ça veut dire c'est pas les gens, on peut pas le définir par leur communauté, parce qu'ils sont vécus dans cette mélange. Mélange au Liban, mélange par rapport au monde arabe, mélange par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça veut dire c'est les politiciens, c'est les logiques qui existent au Liban. Logique, je faisais le film des notions communistes. C'est trois camarades et moi qu'on croyait la laïcité, et on n'a rien à foutre de religion. On n'avait rien à foutre, même de notre culture. Ok. Et après la fin de la guerre. C'est les communautés qui ont coupé les fromages entre le chef de milice. Ça, c'est pour nous, ça, c'est pour moi. Et moi, je m'appelle chiite, moi, je m'appelle sunnite, moi, je m'appelle... Et j'amène le mouton, c'est comme des moutons dans leur tête. Je l'amène vers moi. Ça veut dire, si moi, j'ai sorti de la guerre civile, il faut que je trouve du travail, il faut que j'aille chez la chef de communauté chiite. Ça ne me fait pas dire que je deviens chiite parce que j'y vais chez le chef chiite. Il m'oblige. Ça ne me fait pas dire, moi, si je deviens une morceau chiite. C'est ce que je veux dire, c'est de faciliter, de dire que oui, c'est chiite, c'est sunnite, c'est de cette logique de qui était quand même à l'image d'avant. Les Liban, c'est chrétien. Mais c'est quoi chrétien? C'était la politique et c'était le pouvoir dans le minorité chrétienne, minorité politique. C'est pas tous les chrétiens qui ont gagné de ce pouvoir aussi. Ce que je veux dire, c'est assez plus compliqué. On parle de l'individu ou on parle de politique, de système politique. Et c'est complètement différent.
Dans mon dernier roman, il y a un personnage juif qui a été obligé de quitter le Liban à cause de la guerre.
De la guerre, oui.
Et toujours dans nos romans, il y a des juifs. Dans le roman de Elias Khoury, toujours il y a des juifs. Il y a une relation de nostalgie que nous sommes contre, que les communautés libanais, les juifs sont des Libanais, qui ont été obligés de quitter.
André Viola, alors je vous repose la question. Qu'est-ce que ces parcours humains et artistiques et littéraires vous inspirent de votre place ?
Bien, je crois que ces parcours, ils reflètent bien le Liban. Et vous évoquiez tout à l'heure cette diaspora. Hein. Il y a plus de Libanais, je crois, en dehors du Liban qu'au Liban, puisqu'on parle là d'un pays de aujourd'hui 4 millions et demi d'habitants. Et petite parenthèse, 1,5 million de réfugiés syriens. Quand nous, on se pose des questions pour savoir si nous avons les capacités d'accueillir 30 000 réfugiés sur les 5 ans à venir, le Liban, lui, comme la Jordanie d'ailleurs, le Liban a accueilli plus d'un million de réfugiés sur 4,5 millions d'habitants. Avec le souvenir de tout ce qui s'est passé par les camps, etc., c'est pas neutre. Au Liban que de revivre cela. Donc je referme la parenthèse, mais preuve qu'on a des débats aussi, on a des sujets aujourd'hui qui sont à traiter, qui sont les mêmes, et là, parce qu'il y a peut-être une différence, une approche différente, que je regrette d'ailleurs un petit peu, cet égoïsme et ce repli européen. Moi, je crois qu'il y a une valeur qui a été évoquée ce matin, c'est la laïcité, avec ses deux facettes. Hein. Alors, c'est un débat très français, hein, les deux laïcités, ouvertes, pas ouvertes, fermées. Bon, la laïcité, en tout cas, pour moi, hein, lutte contre tous les dogmatismes. Et en premier lieu, son propre dogmatisme possible. Et donc, la laïcité... Vous le disiez, je crois que ceux qui vont au Liban, en tout cas moi, alors peut-être parce que aussi homme politique, hein, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est que vraiment elle est au cœur du politique. Moi, je m'attendais à des gauche droite, communiste, pas communiste, et puis je me suis aperçu que finalement j'en ai jamais entendu parler quand je suis allé au Liban. Et qu'il y avait surtout cette définition et ce jeu institutionnel à partir des religions. Et je crois que, voilà, pour nous, en tout cas, conception de la laïcité, c'est de, en France, c'est de mettre la religion en dehors du collectif et de le laisser à l'échelon individuel, et comme vous disiez, après, à l'échelon individuel, c'est autre chose. Chacun fait comme il souhaite, et on doit laisser libre et tout faire pour qu'on puisse avoir cette liberté de conscience. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est ce qui m'a frappé, c'est cette grande différence et cette définition des institutions par rapport à une communauté religieuse que nous ne connaissons pas. Que nous ne connaissons pas en France. Voilà, et puis pour conclure, moi j'espère que cette Europe, elle se tournera demain. C'est vrai qu'elle a eu une période tournée vers l'Est, lorsque le mur de Berlin est tombé, pour arrimer ces pays à l'Union européenne. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut que... Ben, l'Union européenne, elle fasse sa révolution, qu'elle se tourne maintenant vers la Méditerranée. En tout cas, c'est vrai que nous, sudistes, on a cette ouverture naturelle, hein, et cette proximité. Et c'est vrai que quand il y a des débats à l'échelon de l'Union européenne, on voit les pays du Sud avec les pays du Nord qui peuvent avoir des approches différentes, même si on est au sein de cette même union européenne. Et donc moi, j'espère que demain, l'Union européenne travaillera beaucoup plus avec la rive sud de la Méditerranée et qu'on déploiera cet espace commun dont je parlais tout à l'heure en introduction.
Merci beaucoup, André Viola. Merci à vous toutes et à vous tous.